que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est grave?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si simple que c'est normal.
Chut.
Eh bah, viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote, j'espère que vous allez bien. Vous nous écoutez sur une plateforme de streaming ou à la radio, sachez que désormais On Papote est disponible sur YouTube. Ce sera l'occasion de vous montrer un peu plus les coulisses de l'émission et vous proposer du contenu différent de ce qui est déjà disponible sur Instagram et TikTok. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube, alors n'attendez plus et allez vous abonner, toujours sous le même nom, @onpapote.podcast. Évidemment, le lien vers la chaîne sera en description. Fini pour cette petite partie hashtagade. Ce soir, je suis au studio avec Élise et Sarah, avec qui je vais parler santé mentale et plus précisément maladie mentale. Entre stéréotypes, annonces du diagnostic et vie au quotidien, voilà de quoi nous allons discuter ce soir. Mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter et de nous donner trois mots pour décrire votre maladie sans utiliser de termes péjoratifs.
Alors moi, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans, je suis animatrice en centre de loisirs. Trois mots, bah, je dirais épreuve, accompagnement, compréhension.
Ok. Et oui, moi du coup c'est Élise, j'ai 23 ans aussi. Je suis étudiante pour devenir professeure de français. Et moi je suis diagnostiquée bipolaire depuis 3 ans. Et trois mots pour qualifier la maladie. Activité, une meilleure compréhension des autres et autrement, ça m'a permis de me construire un entourage solide.
Du coup, moi, Anaëlle, évidemment, 22 ans. Et du coup, moi, je ne suis pas atteinte de maladie mentale, mais j'ai eu une dépression, mais ça, on l'avait déjà évoqué un peu dans la saison 1, sur un des épisodes. Et du coup, bah, on l'évoquera encore un peu plus durant l'émission. Donc, la première partie est décrypter un mythe. Donc, je vais vous demander de nous expliquer un peu comment on apprend qu'on est atteint d'une maladie mentale.
Bah, personnellement, donc, ça s'est déclenché quand j'étais en prépa. Alors, Élise et moi, on s'est rencontrés justement en première année de prépa, en Hippocagne à Saint-Brieuc. Je lâche les blazes, j'en ai rien à faire voilà, dans cette prépa-là. Donc, la première année, c'est pas trop mal passé, en réalité, ça allait. Et vers la fin de l'année, j'ai commencé à sentir des choses un peu différentes, hein, une humeur un peu différente. Et c'est surtout à la rentrée de la deuxième année que là, tout s'est dégradé. J'allais de moins en moins bien, j'ai eu des gros problèmes avec la nourriture, j'ai vraiment des troubles alimentaires qui sont aussi déclenchés à cette période-là. Et puis au bout de plusieurs mois, aller de plus en plus mal, je dormais tout le temps, j'avais pas le moral évidemment, mais et des pensées très sombres, de plus en plus sombres. Et puis pas arriver à en parler vraiment. Bah en fait, au bout d'un moment, j'en ai parlé surtout avec des amis au début, en réalité, de la prépa, notamment Élise, justement. Et en fait, les gens m'ont commencé à me dire « ce serait bien peut-être d'aller voir une psy, par exemple ». On avait une amie en commun qui allait déjà en voir une à Saint-Brieuc. Et donc, on s'est dit « vas-y, je prends rendez-vous ». Et puis, en parallèle de ça, je voyais pas mal mon médecin traitant, que je vois depuis que je suis petite et en qui j'ai vraiment très confiance. Bah, au bout d'un moment, le médecin m'a dit « là, ça fait plusieurs fois que vous venez me voir je venais le voir plusieurs fois par mois, en fait, parce qu'à chaque fois, j'avais des nouveaux symptômes très étranges, dont je pourrais peut-être parler plus tard, mais enfin, voilà. Et au bout d'un moment, il m'a dit, là, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de donner les mots. Et je pense que là, tu coches toutes les cases d'une dépression, justement. Et on en a vraiment plus parlé. Et moi, ça m'a fait un choc, parce que je savais que j'allais pas forcément bien. Mais de là à ce qu'on me dise, tu fais une dépression et donc tu vas avoir un traitement antidépresseur et anxiolytique, ça c'était vraiment bizarre. Ça m'a fait un gros coup. Mais d'un autre côté, d'un coup de savoir, de mettre un nom, ça aide beaucoup, je trouve. On se sent d'un coup un peu plus légitime, parce que l'une des choses qui est terrible avec les maladies mentales en général, c'est qu'elles ne sont pas reconnues, et vu que souvent c'est invisible... On se flagelle constamment en se disant est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est vraiment vrai, qu'on vit vraiment ça, est-ce qu'on n'est pas juste feignant ou pas assez motivé ou quoi. Donc ça m'a, la découverte de ce diagnostic m'a quand même aidée, même si c'était un gros choc.
Moi du coup avec la bipolarité c'est un peu différent. Dans mon cas c'est pas un trouble qui se développe en réaction à quelque chose. je suis née comme ça. Parce que, du coup, peut-être que je peux expliquer un peu ce que c'est la bipolarité. C'est une alternance de phases hautes qu'on appelle manie ou hypomanie et de phases basses qu'on appelle dépression ou dépression sévère. Donc ça veut dire que par moment, tout va trop bien. Je mange pas parce que je ressens pas la faim, je dors pas parce que je ressens pas la faim. Je dépense tout mon argent, j'ai des conduites à risque avec l'alcool ou le volant par exemple. Et des phases de dépression où tout est ralenti, il va y avoir des idées suicidaires. Mon trouble a pris de l'importance, on va dire, avec des événements de vie. Du coup, ça vient un peu compliquer les phases dépressives. Là, je sors de 3 mois et demi d'hospitalisation pour dépression.
Quand on t'a dit que t'étais bipolaire, c'était il y a maintenant...
C'était il y a 3 ans. Ouais. Ça allait pas mieux, donc je faisais que d'alterner des phases hautes et basses, mais sans comprendre. Un jour, il y a une psychologue qui m'a parlé de bipolarité. Au début, j'ai complètement rejeté le truc. J'ai arrêté d'aller la voir et j'ai arrêté d'aller voir qui que ce soit pendant des mois. Voilà, ce qui devait arriver arriva. J'ai refait une phase dépressive et cette fois, je me suis renseignée sur la bipolarité et j'étais là, ah bah ouais, en fait, je coche toutes les cases. Et donc j'ai repris un suivi en CMP, donc centre médico-psychologique. On m'a très vite diagnostiqué bipolaire et moi, ça, pareil, ça a été un soulagement de l'intégrer parce que ça voulait dire que je pouvais enfin comprendre comment je fonctionnais, que j'étais pas une anomalie quelque part.
Ouais, je vois.
C'est que, enfin, il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme moi et il y a d'autres personnes, on arrive à les traiter malgré ce mode de fonctionnement. Donc, il y a de l'espoir, quoi.
Vous nous avez parlé un peu, du coup, de la façon dont vous avez appris le diagnostic. Bah, tu as un peu répondu à ça, Élise. Comment vous avez réussi à accepter? Est-ce que vous avez réussi facilement à l'accepter ou est-ce qu'au contraire, ça a été plus compliqué sur certains points?
Pas évident, parce qu'il y a un peu un truc perso. Moi, je me disais que j'étais quelqu'un qui allait bien, on va dire. Que moi, ça allait. En plus, je suis dans une famille qui m'entoure vachement bien. J'ai des bons amis depuis de longue date et tout. Donc, je me disais, je suis clairement pas le type de personne qui va faire une dépression, quoi. Donc, quand on m'a dit, bah si, c'est ça. C'est vrai que c'était bizarre, je me disais, bah non, pas moi. Parce que j'étais moi aussi pleine aussi de clichés hein, sur ce que c'était qu'être en dépression, que d'être dépressif ou quoi. Donc ça a été un peu difficile, mais une des choses qui m'a vraiment fait tilter, c'est une conversation notamment au bar. On allait tout le temps à la bergerie à Saint-Brieuc, et avec les copains de la prépa, qui sont plus des copains aujourd'hui d'ailleurs. Mais... et on y était... Et puis là, je commence un peu à leur dire, ouais, bah du coup, j'ai vu mon médecin, il m'a dit que j'étais en dépression, c'est fou. Et là, mes potes, ils sont tous là en train de dire, bah ça se voit de ouf, hein. Ça fait des mois que tu vas de plus en plus mal, que ça se dégrade et que, bah, on essaye de faire comme on peut, mais on sait pas comment forcément aborder la chose. Mais en fait, ça fait très longtemps qu'on voit que ça va mal. Alors que moi, j'étais persuadée que je cachais trop bien mon jeu, qu'il y avait que moi qui savais que j'allais pas bien. Et, par exemple, Élise, parce qu'elle, je lui en parlais beaucoup. C'est tout quoi. Et en fait, bam, bah non, c'était hyper clair. Et là, ça m'a fait prendre conscience que bah si, c'était vrai et qu'il fallait que je l'accepte pour pouvoir continuer. Autre chose aussi par rapport à l'acceptation, c'est un système un peu marrant, je trouve. Quelqu'un te dit, ok, tu fais une dépression. Tu dis, ah ok, d'accord. Bon, bah maintenant, je suis consciente de ça, je suis plus dans le déni. Et en fait, il y a une autre phase qui vient après où d'un coup, tu te dis, ah en fait, non, c'est là que je sors vraiment du déni. Et parce que d'un coup, tu t'arrêtes de te mentir à toi-même. Et au début, tu dis « oui, je fais une dépression ». Mais dans le fond, tu te dis « ouais ».
Ouais, genre c'est un mot.
Ouais,
quoi,
voilà.
Genre, c'est...
Et au bout d'un moment, il y a une deuxième phase où t'es là vraiment, tu le sens que « bah oui, et c'est ça ». Et c'est vraiment, ça fait sens, quoi.
Et je pense qu'il y a une question de timing aussi. Je pense pas que si on m'avait dit pendant la prépa que j'étais bipolaire... ou même plus tôt. Je pense pas que je l'aurais accepté. Et la preuve, hein, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu, quand la psychologue que j'avais vue m'avait parlé de bipolarité, je me suis complètement braquée. J'ai dit non. Mais je viens là, il n'y a pas très longtemps, donc 3 ans après, de me rendre compte que je fonctionnais pas de la même façon que tout le monde. Et que du coup... En fait, c'est faut surtout apprendre à se connaître soi-même et s'écouter vachement. Faut être à l'écoute énormément de son corps, de sa tête, de tout. Faut être hyper vigilant constamment et ça peut être un peu épuisant.
Mais je vois carrément ce que tu veux dire. Tu disais que bah oui, j'ai été en soutien justement pour plusieurs amis qui ont vraiment été très mal. Et du coup, moi, j'estimais que j'étais pas suffisamment mal aussi. Enfin, j'avais l'impression que moi, c'était pas si pire qu'en réalité. Comparé à mes amis qui avaient subi des traumatismes très lourds, enfin vraiment des expériences de vie qui étaient assez tragiques et tout, moi non. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'en effet ça bloquait un peu,
ça,
je me comparais.
Moi j'ai tout le package, j'ai tout qui explique que j'ai fait une dépression. Mais en fait parfois il n'y a pas de raison pour faire une dépression.
Ben oui.
C'est juste un dérèglement chimique du cerveau ou... tes neurotransmetteurs, ils sont plus capables de transmettre les informations correctement et tes hormones ne sont pas assez produites. C'était ça aussi, je pense, surtout toi qui était compliqué.
Ouais.
Parce que personne, enfin, si tu avais en tête quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un comme Élise. Oui, forcément.
Mais après, on dit souvent que les gens qui sourient le plus sont les plus malheureux, en fait.
Mm. Oui, c'est pas faux.
Donc c'est peut-être ça, en fait, que tu as voulu refléter, garder quand même cette place de soutien, en fait, d'accompagnement, ben, comme tu l'as dit, pour les autres. Mais du coup, tu dis, bon, bah, j'encaisse pour tout le monde, mais du coup, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que les autres ont vécu, peut-être que mes petits problèmes, ils sont pas aussi importants que, du coup, ce que les autres vivent.
Mmh. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'échelle de la douleur, de la souffrance. Bien sûr, il y a des événements plus graves que d'autres, plus traumatisants, ok. Mais le fait est que si tu souffres, tu souffres, même si c'est... Bah, pour un petit événement, peu importe. Si cet événement, il t'a fait souffrir, bah, c'est légitime que tu souffres et il faut que tu comprennes pourquoi. Et voilà.
Est-ce que je peux vous demander, du coup, quelles sont les causes un peu, du coup, de ta dépression, toi, Sarah, et ta bipolarité, toi, Élise ?
Clairement, c'était la prépa. Je suis toujours encore très, très remontée, très énervée par ce système que je déteste et que je pense que ça devrait être aboli ou en tout cas... mais entièrement réformée, parce que je dis souvent cette phrase-là, la prépa, c'est un rouleau compresseur à bon élève. Tu sors du lycée, t'es au top, souvent t'as fait un super bac, tes profs te valorisent, ils t'ont poussé à aller en prépa, parce que moi de base je voulais même pas forcément y aller. J'avais mon frère qui avait fait une prépa littéraire, parce que c'est une prépa littéraire que j'ai fait, qui m'inspirait aussi d'aller dans ce sens-là, parce que j'admire beaucoup mon frère, c'est mon grand frère. Ben voilà quoi. Et personne m'y a poussé, mais on m'a engagée là-dedans. Donc j'y suis allée en me disant, ok, c'est bon, let's go, je continue à faire de toutes les matières, je vais me spécialiser plus tard. Et en fait, tu rentres là-dedans et tu te fais, mais t'es foncé. Notre premier cours d'anglais, contrôle d'anglais.
Premier cours.
Puis en mode, bon bah comme ça au moins je saurais à quoi m'en tenir à votre niveau et tout. Et encore, c'était pas le pire des profs celui-là, hein, vraiment. Mais il fait ce contrôle, il rend les contrôles la semaine d'après. J'avais eu genre 8 ou 9. Moi j'étais persuadée que j'allais avoir une super note parce que voilà quoi. Et en fait, non, mais pas du tout. Et là d'un coup, la réalité qui retombe, bah, en fait, ça veut dire que je suis nulle en anglais. Ça veut dire que moi qui voulais être peut-être prof d'anglais ou faire une fac d'anglais, en fait, qu'est-ce que je fous? Pas du tout. Avec un seul contrôle, quoi.
Ouais.
L'ambiance de la prépa était super, super nocive. Même si on était peut-être une prépa un peu moins compétitive que d'autres prépas, c'est assez évident. Mais j'ai l'impression que ça avait un revers. Le prof était vachement content de ça. Nous, on n'est pas trop dans la compète et tout. Mmh. Sauf qu'au final, en prépa, il y a forcément de la compète. C'est-à-dire que le système, il est fait pour que les élèves se tirent un peu dans les pattes, entre guillemets. Enfin, tu veux être le meilleur, tu veux être meilleur que les autres, il faut que tu penses aux notes des autres, il faut que tu penses toujours au classement ou ce genre de choses, même si c'est pas induit dans la prépa. Et du coup, bah, le fait que forcément ça existe, bah, c'est là. Et en fait, du coup, c'est là, mais par derrière, c'est encore plus insidieux, et c'est ça qui était vraiment malsain. Et donc, c'est que ça a détruit mon ego totalement. Je pensais que j'étais mais nulle, quoi. Il y avait quelques exercices où ça allait, mais j'étais tellement pas à la hauteur. Et pourtant, au début de la prépa, j'étais dans le top 10 de la classe. J'étais au top, j'étais bonne à peu près partout. Et d'ailleurs, les profs étaient un peu en mode « Ouais, Sarah, peut-être que tu pourras avoir la sous-admissibilité, donc avoir des bons résultats, on va dire, au concours de l'ENS et tout. » Ils misaient un peu sur moi. Sauf que bah, j'ai dégringolé. puis plus tu dégringoles, moins t'arrives à te raccrocher, et puis et les profs au début sont là un peu, et après ils te lâchent, et après ils te descendent en fait. Donc c'est ça moi qui m'a fait complètement sombrer. Et puis j'étais en couple avec un gars qui habitait loin et qui me rendait assez malheureuse en réalité, parce que il me donnait pas ce que j'attendais et je me sentais pas aimée. Et donc ça tout combiné. Et ouais, et c'est en il y a eu le confinement justement, et moi je suis rentrée chez mes parents du coup. Et en fait là mon père, ma mère et mon frère, ils m'ont fait une intervention en mode Sarah, t'arrêtes la prépa, là c'est bon, t'as plus besoin de les voir, tu peux partir en soum-soum, et puis t'auras pas de conséquences, tu pars. Ils m'ont un peu forcé la main, mais en fait très vite après ça allait beaucoup mieux. Donc c'était bien ça le problème.
Moi du coup c'est des traumas dans l'enfance et l'adolescence plutôt qui ont, même si la prépa ça m'a
pas aidé,
mais du coup moi c'est des traumas liés à des tentatives de suicide ou des suicides dans mon entourage, donc de mon papa quand j'avais 9 ans et de mon ex qui est décédé d'une overdose.
Je précise que ton père va bien.
Oui, mon père va bien.
Ah, ok.
Non, parce que la manière
ouais,
dont...
La façon dont tu l'as dit, pour moi, c'était les deux qui étaient partis.
Ah non, je me suis mal exprimée. Non, tentative de suicide de la part de mon père, il est bel et bien vivant.
Il fait des guitares, il est super. Voilà.
Ouais, voilà. Bisous papa, je t'aime.
En faisant mes recherches, j'ai vu qu'on relatait en 2023, du coup, 9300 suicides et 200 000 tentatives de suicide, du coup, par an. Donc ça fait à peu près 24 décès
en jour. En France ?
En France.
Wow.
Et du coup, par rapport à ces maladies mentales, et du coup, ma question va être un peu crue, mais est-ce que vous en avez déjà fait ou est-ce que vous en avez déjà eu envie d'en faire ?
Quand tu traverses de toute façon, par exemple, une dépression, c'est un des symptômes, en fait, un peu à cocher, même si. Une maladie mentale, c'est pas tu coches tout, il faut avoir tout bien pour qu'on... Non, c'est plus compliqué que ça. Élise l'a rappelé tout à l'heure. Chaque personne qui fait une dépression est différente, chaque personne qui est borderline, qui est bipolaire est différente. Mais ça fait quand même partie des symptômes. Donc moi, oui, j'ai jamais tenté. Je n'ai jamais allé jusqu'à l'élaboration carrément de scénario, pas vraiment. Mais par contre, j'avais des phobies d'impulsion, en fait, énormément. Donc c'est, par exemple, je suis dans ma voiture, sur l'autoroute, la voie express. Et je me dis, tiens, si je tourne le volant maintenant, c'est fini. Ah, il n'y a personne en plus, là, il n'y a pas de voiture autour de moi. Ah, vas-y, je peux le faire. Et c'est d'être là et d'avoir très, très peur de franchir le truc et d'être à deux doigts de le faire. Mais sinon, il y avait un autre truc typique. Quand j'allais en cours, j'allais à pied à la prépa. Et je ne regardais plus jamais avant de traverser. Heureusement, il n'y a jamais eu de voiture qui m'a percutée. Mais je fonçais et je me disais ok, vivement il y a une voiture qui vient, comme ça je vais pas en cours, comme ça j'ai une vraie raison de pas aller en cours, parce qu'évidemment en prépa il faut aller à tous les cours tout le temps, si t'en manques t'es l'absentéiste, et puis c'est terrible, et donc tu te mets une pression de fou pour aller en cours, à tel point que bah moi ça me rendait complètement malade. J'avais l'envie que ça s'arrête, que je me fasse percuter par une voiture en y allant. C'est fou de se rappeler de ça maintenant. Donc voilà. Après, voilà, je ne suis jamais allée jusqu'à la tentative réellement. J'ai eu beaucoup de comportements dangereux avec moi-même vis-à-vis de l'alcool, où je faisais des mini-comas et tout, parce qu'en plus, avec les traitements, ça n'aide pas forcément. Et je ne me réveillais pas le matin du tout. Fallait venir me secouer. Et même en me secouant, je ne me réveillais pas. Parce que j'avais tellement bu avec les médicaments que tu fais. Ton cerveau, il s'éteint, quoi. Donc, j'avais des comportements dangereux. Je savais que c'était dangereux, mais j'étais très contente de pouvoir les faire, parce que c'était...
C'était jouer avec le risque.
Ouais, complètement. Ouais. Puis c'était réaliser, se rapprocher un peu d'un état qui me faisait envie, ce truc de... Tu ressens plus rien, t'as plus de douleur. Et t'as plus d'attente à respecter, t'as plus rien, quoi. Donc ça donne envie. Mais moi, je suis jamais allée vraiment très loin.
Ils font la distinction, les psychiatres, entre idées noires et idées suicidaires. Les idées noires... si j'ai bien compris, c'est toutes les pensées qui vont tourner autour de la mort. Donc, mourir, ce serait un soulagement. Et l'idée suicidaire, c'est vraiment avoir établi un plan d'action sur foutre en l'air. J'ai mon plan dans ma tête qui revient quand ça va pas. Mais j'ai jamais eu de passage à l'acte, ni de comportement autodestructeur Je me suis jamais mutilée ou quoi. Enfin, on peut prendre les troubles du comportement alimentaire en comportement autodestructeur. Et c'est tout.
On va passer à la deuxième partie. Donc avant ça, on a une petite question de transition. Est-ce que votre perception de la vie a changé depuis votre diagnostic ?
Oh oui, je crois qu'on...
Ouais.
Carrément. Bah, c'est un truc aussi qu'on se dit souvent et que je dis souvent aux gens qui sont aussi dans des phases compliquées, c'est que même si je ne souhaite à personne de faire une dépression ou n'importe quel type de crise psychologique, quoi. Mais le fait est que quand tu sors de ça, c'est un truc de malade comment tu deviens beaucoup plus fort. Tu te connais vachement mieux. Donc, tu sais mieux aussi anticiper. T'apprends à mieux te gérer. Tu comprends mieux les autres. Tu comprends mieux ce que c'est que d'avoir mal. T'as une empathie, j'ai l'impression, qui se développe de façon exponentielle, en fait, quand tu arrives à sortir d'un épisode. Et on arrive toujours à remonter la pente. Il y a toujours des moments où ça va aller mieux. Des fois, tu passes 3 ans à faire que des montagnes russes, on va dire. Mais le fait est qu'il y a toujours des moments où ça va mieux. Il faut essayer de se raccrocher à ça. Et dans ces moments-là, tu vois le chemin que t'as fait. Et c'est dingue, la perception, en effet, des autres, de toi-même. Moi, je trouve que c'est la force de la dépression, on va dire. Le truc un peu positif. Bah, ok, t'as vécu un truc super dur. Vraiment, t'en as chié. Mais t'es vraiment quelqu'un de meilleur grâce à ça aussi.
La bipolarité, je ne l'ai pas dit, mais c'est un trouble à vie. Hein, on n'en guérit pas. Donc, je serai toute ma vie comme ça. Et enfin, là, d'un coup, on m'a apporté une réponse avec le diagnostic en me disant toute ta vie, tu as fonctionné de telle façon et tu avais l'impression d'être folle parce que personne autour de toi ne fonctionnait pareil. C'est parce que tu fonctionnes comme ça et il y a... Des petits trucs qui peuvent te dire à l'avance que tu vas peut-être réagir de telle façon ou de telle façon. Le diagnostic, ça m'apporte du pouvoir sur
le contrôle de ta vie.
Voilà, je suis capable de savoir. Ouais, j'ai le pouvoir de faire quelque chose avec ça.
On va passer à la seconde partie du coup, qui est la stratégie de survie. Du coup, Élise l'a un peu évoqué au quotidien, comment ça fonctionne, etc. Et la question est, du coup, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu te perçois et tu vis avec ton diagnostic ?
Ce que je viens de dire, c'est cool, j'ai du pouvoir, j'ai le savoir sur ma pathologie et la façon dont je fonctionne. Je peux anticiper et tout. Et justement, en fait, je suis tout le temps en train de réfléchir. Je suis tout le temps en train de me demander, est-ce que mon comportement là, il est pathologique ou c'est normal ? Mais en fait, c'est un effort constant. C'est devenu une angoisse d'analyser tout ce que je fais et de me demander est-ce que c'est pathologique ou pas. Enfin, par exemple, je me suis acheté un casque Bluetooth. J'avais envie de m'offrir un casque Bluetooth. Mais c'est un casque, ça coûte très cher. Ça coûte 350 balles. Normalement, quand je dépense autant d'argent, c'est que je suis en phase hypomaniaque. Et du coup, j'ai conscientiser l'achat comme pas possible. Je me suis posé 36 000 questions et j'ai regretté. Il faut que j'aille le rendre. C'est pas possible. J'ai fait n'importe quoi.
Ça, je relate à fond. Quand tu sens, c'est tu te réveilles, c'est une moins bonne journée. Et d'un coup, tu te dis, ok, comment est-ce que ça va être juste le matin? Est-ce que quand j'aurai, c'est de la mauvaise humeur? Est-ce qu'en ayant bu mon café, tout va changer? Ou est-ce que je vais partir sur une grosse journée bien nulle? Est-ce qu'en fait, je pars pour un mois, deux mois 3 mois de je peux plus sortir de chez moi. Enfin, il y a vraiment ce questionnement un peu constant. C'est assez pesant parfois. Mais comme tu dis, ça donne, d'un côté, ça donne du pouvoir. Donc, c'est vraiment un équilibre quoi, entre le côté positif que ça t'apporte et le risque que c'est de trop intellectualiser tout ce que tu fais, en fait. Faut pas oublier de se laisser vivre avec nos impulsions, nos instincts. Sans trop se polluer, accepter que je crois que maintenant je ferai toute ma vie des passages dépressifs ou des dépressions. Parce que depuis que j'ai fait ma plus grosse dépression, du coup, en prépa, il y a maintenant 5 ans. Après ça, un an après, j'ai refait un épisode dépressif. Puis ça s'est arrêté. J'ai repris encore là. Actuellement, je suis sous traitement depuis 2 mois. Ça va durer encore certainement 2-3 mois. Mais voilà, je fais que retomber. C'est très dur, ça, quand tu te redis « Ah non, pas encore. » Mais bon, il faut l'accepter. Il faut réussir à se dire « Non, mais c'est pas grave, tu vas t'améliorer, tu vas mieux te comprendre. » Déjà que je me comprends mieux qu'avant. Donc j'imagine que dans 10 ans, ce sera encore autre chose.
Est-ce que, du coup, votre diagnostic a eu un peu un impact sur vos relations sociales, donc familiales et amoureuses, et aussi amicales ?
De fou. Alors, surtout ma relation amoureuse. Parce que, du coup, j'ai fait ma première dépression, j'étais encore en couple avec mon ex. Et on est resté quand même presque 5 ans ensemble. Donc, on est ressortis ensemble au lycée et tout. Donc, c'était ma plus grosse relation et tout. Enfin, j'étais très, très, très amoureuse. Et en fait, quand j'ai commencé à aller de plus en plus mal, bah, lui, il était très loin. Et c'était compliqué. Et en fait, quand je venais le voir, bah, je sentais que ça lui pesait, ce qui est normal. C'est très difficile d'être l'entourage d'une personne qui va mal. C'est vraiment pas facile. Il faut pas oublier cette souffrance aussi, je trouve. Mais ce qu'il faut pas oublier en tant qu'accompagnant, c'est que ta souffrance à toi est tellement moins pire que celle de la personne qui souffre de dépression ou qui souffre d'un trouble. C'est cette personne-là qui est isolée par ses symptômes, c'est cette personne-là qui vit le truc le plus, de façon la plus puissante. Et je pense que lui, il l'a complètement oublié. Il s'est dit « Non, c'est ma souffrance avant tout. » Et il a commencé à me dire des trucs du style « Non, mais faudrait que quand tu viennes, t'arrêtes d'être triste. J'en ai marre que tu sois triste quand on se voit. » Tu devrais être contente quand on se voit, tu devrais être dans le positif quand on se voit. Et ça, ça a été horrible parce qu'en plus, c'est la pire peur que t'as. Qu'on te dise, ouais, mais t'es vraiment un poids. Toi, tu te dis tout le temps, je suis trop un poids pour les autres. Les gens bien autour de toi essayent de te soulager de ça en disant, mais non, c'est pas grave et tout. Et quand ça, en fait, on te le dit, c'était horrible. Et du coup, pendant des mois, j'essayais d'être bien, de faire semblant. Et je me rappelle, il s'endormait et je me mettais à pleurer dans le lit quand il dormait, quoi. Et des fois, il se réveillait et puis il faisait genre... Pff, c'était horrible. Et pourtant, c'était une très belle relation au début. Hein. Franchement, pas de soucis, c'est pas quelqu'un de mauvais en soi, mais qui a juste pas du tout suggéré qu'il a fait de la pire manière. Et donc, on a fini par se séparer parce qu'aussi, il avait déménagé et tout. Enfin, bon. Et sinon, sur le reste de mon entourage, ça m'a rapproché de ma famille. Après, j'ai de la chance, je fais partie d'une famille qui m'accompagne, qui me respecte et tout, donc c'est vraiment top, je me sens aimée, acceptée. Et donc ça m'a rapprochée beaucoup d'eux, notamment de mon frère, parce que mon frère, il a fait une dépression post-prépa, lui. Le fait qu'on ait vécu ça, lié à la même chose, une prépa littéraire, ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés. Ma mère, pareil, ça, on est devenus encore plus proches qu'avant, parce que quand elle était jeune, en fait, elle a sûrement fait une grosse dépression quand elle a fait elle-même une prépa scientifique. Et en fait, elle s'en est aussi rendue compte. Et puis plus tardivement, ma sœur, parce que en fait, on est tous des gros anxieux dans la famille, et ma sœur aussi, malheureusement, a fait un burn-out là. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Mais le fait est qu'elle ait vécu ça aussi, ça nous a beaucoup rapprochés. Parce que bah, d'un coup, tu te comprends, il y a des points d'accroche encore plus forts. Et puis c'est des choses tellement profondes et importantes.
Et personnelles aussi.
Et personnelles, que de le fait de les partager... Bah, c'est un truc de fou comme ça peut renforcer les liens. Donc en vrai, ça a surtout été très positif.
Bizarrement, ça a renforcé mon couple avec un homme génial depuis 5 ans. On s'est rencontrés à l'époque au moment où je me suis fait diagnostiquer dépressive, quoi. Pas encore bipolarité. Donc il a tout vu. Il m'a vu être diagnostiquée, les hospitalisations, venu me voir, rencontrer les médecins. Ça nous a vraiment, vraiment rapprochés. Maintenant, on vit ensemble depuis 3 ans. Enfin, ça se passe super bien. Après, j'ai eu des trucs, des réflexions du genre « Oh, bah, quand j'explique ce que c'est la bipolarité, mais, moi aussi, je suis un peu bipolaire. Alors, tout le monde est un peu bipolaire. C'est normal, les variations de l'humeur. Ta gueule, connard ouais. !» Des petits trucs comme ça. Mais depuis... 2 ans à peu près, j'ai beaucoup de mal à dire à mes proches que ça va pas, parce que je veux les protéger et que je veux tout contrôler et gérer, que j'ai pas envie de les inquiéter, trucs comme ça. Et du coup, je me referme beaucoup. J'en parle avec mes médecins, mais j'ose pas en parler à mes parents. Et du coup, ils découvrent un peu au dernier moment que ça va pas bien en fait depuis 2 mois et que bah, du coup je me fais hospitaliser. Donc des fois ça sort, pour eux ça sort de nulle part et ils comprennent pas.
Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les personnes qui sont atteintes de dépression ou qui pensent l'être? qui pensent être bipolaires ou qui le sont?
Bah déjà l'entourage, c'est vraiment super super important de faire attention à pas de dans de la toxicité, parce que ça c'est vraiment dur. Moi je sais que j'ai été dans pas mal d'amitiés toxiques qui m'ont tiré vers le bas à certains moments, mais c'est des gens aussi qui aujourd'hui sont des amis très sains. Hein, je dis pas forcément tout lâcher et abandonner la personne et dire c'est plus jamais et tout, mais il faut en parler, il faut résoudre les soucis, pour assainir son entourage, aller voir un psychologue ou une psychologue. Ça c'est vraiment le truc qui soigne, parce que tu peux prendre un traitement, ça va t'aider dans tes symptômes, ça va vraiment te faciliter la vie, ça y a pas de souci. Mais le fait est que c'est pas ça qui va vraiment te faire aller mieux. Ce qui fait aller mieux, c'est de se confronter au problème, de répondre à tes questions, de comprendre. Et c'est ça qui fait vraiment progresser. C'est vraiment la base pour moi.
Je te rejoins dans le sens où, pour moi, il faut savoir s'entourer correctement. Je pense à une équipe médicale, dans un premier temps. Qu'un médecin qui peut poser un diagnostic, c'est important de le rappeler. Qu'un médecin qui peut prescrire des médicaments pour aller mieux s'il y a besoin de médicaments.
Et avant qu'on clôture l'émission, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, rebondir sur un point qu'on a évoqué ou dire quelque chose qui n'a pas été dit?
C'est plus une espèce de vision des choses. J'essaye, et je crois que ça, c'est bien, ça fait du bien, de me traiter comme si je traitais une amie ou un ami. Dans les moments où on a toutes ces pensées intrusives qui viennent et qui nous disent à quel point on est la plus grosse merde que cette terre ait jamais portée, dans ces moments-là, essayez de tout son cœur de prendre du recul et de se dire, si jamais là, il y avait Élise à côté de moi et que je lui disais tout ça, elle réagirait comment? Bah, elle serait en train de me faire plein de câlins, elle serait en train de me dire, c'est trop pas vrai, t'inquiète, il y a ça chez toi qui sont super, tu vois. Et en fait, de s'imaginer comme ça, de se dire, ok, il faut que je me considère moi-même comme une amie. C'est très dur, j'y arrive pas encore. Pas vraiment, mais j'essaye. Et il y a des moments où j'arrive à prendre ce recul et ça aide vraiment beaucoup. Être doux avec soi-même, réussir à être doux avec soi-même. Et je pense que c'est un travail de longue haleine, mais c'est un très bon objectif, je pense, à avoir en tête.
Moi, une pensée que j'essaye de garder en tête, c'est que tout est passager. La souffrance que je ressens à un instant T, elle sera plus là ou elle sera différente à l'instant d'après. Rien n'est éternel, donc même si ça fait très longtemps qu'on n'est pas bien, il y a quand même de l'espoir. Ce serait vraiment hautement improbable que de toute ma vie ça aille pas mieux du tout.
Mais non, non, c'est même pas vraiment possible en soi. Enfin, je veux dire, non. Ouais.
Donc, ouais. Tout est passager.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de On Papote. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la noter sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Un grand merci à Élise et Sarah qui ont accepté de nous partager une partie très intime de leur vie. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. En attendant, je vous attends sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et évidemment maintenant YouTube, sous le même nom, @onpapote.podcast. Passez une bonne soirée et à bientôt !